Je répète ce que j'ai annoncé la dernière fois, pour que ce soit bien précis. Samedi prochain, il y aura la moitié de la séance sera consacrée à la fin du cours proprement dit, à savoir l'œuvre comme volonté. Et la seconde heure, nous l'occuperons, je l'occuperai, à présenter le séminaire sur Proust et la photo, en précisant bien, pour essayer d'éviter tout malentendu, qu'il ne s'agira pas de la photographie. Ce n'est pas un séminaire sur la photographie. C'est peut-être un séminaire sur Proust, indirectement. Je dirais de façon un peu précieuse que c'est un séminaire sur E.T., Proust et la photo. Cela dit, la présentation des diapositives, avec les légères modifications de salle d'auditoire que ça entraînera, n'aura lieu donc que les deux dernières séances, le 1er et le 8 mars. Ces diapositives seront présentées en double, c'est-à-dire ici dans cette salle, et aussi dans la salle 6. Donc aujourd'hui et une heure samedi prochain, ou à peu près, fin du cours sur l'œuvre comme volonté. Et voici donc maintenant, pour finir, la troisième épreuve. La première épreuve de celui qui veut écrire était plus ou moins ponctuelle, en tout cas inaugurale. Il s'agissait de choisir ce qu'il allait écrire. La seconde épreuve était en quelque sorte permanente, en tout cas durable, c'était l'épreuve de la patience, du faire. Et la troisième est, si l'on peut dire, récurrente, c'est-à-dire que c'est une épreuve qui revient tout le long du travail comme un sentiment difficile qu'on ne peut jamais définitivement chasser. En effet, celui qui se donne à l'écriture, si du moins j'interroge certains des auteurs que j'ai déjà interrogés, et si je m'interroge moi-même, celui qui se donne à l'écriture se sent séparé du monde. Non pas seulement par un acte de retraite physique, mais par un sentiment, à la limite culpabilisant, de rupture, de divorce, de séparation de valeurs. Il se retire des valeurs reconnues du monde. D'une certaine façon, il se désolidarise. Il renonce à une certaine complicité, en tout cas quotidienne. Et s'il reste co-présent, qu'autre et l'union présent au monde, c'est par un détour que parfois il a du mal à assumer. Et il se sent facilement, celui qui veut écrire et celui qui écrit, il se sent facilement en état, je dirais, d'apostasie, laïque, bien sûr. Donc, il s'agit, dans cette troisième épreuve peut être dite, ou aurait pu être dite, parce que le mot ne se dit plus beaucoup, comme une épreuve morale. C'est une épreuve morale. Il me semble que, là je vais parler un petit peu de l'archaïsme de la littérature et de son rapport au désir d'écrire. Il me semble en effet que ce qui affleure maintenant à la conscience ou à la semi-conscience collective, c'est tout de même un certain archaïsme de la littérature, au moins tel que je l'ai décrite plus ou moins ici, et donc d'une certaine marginalisation de la littérature. On parle toujours de marginalité, des marginalités comme étant de droit des marginalités jeunes. Dans les marges sont attribuées aux jeunes aujourd'hui, mais en fait il y a des marges du temps, il y a des marges de l'histoire, et il y a des marges des vieux aussi, et qui seraient tout aussi intéressantes à repérer, à comprendre. Or, c'est là notre problème, parce que cette archaïsation de la littérature est coprésente, elle est concomitante à un désir fort de cette même littérature. C'est-à-dire qu'à la fois on désire, le sujet désire la littérature, et il désire quelque chose qu'il ressent comme archaïque. Alors, ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette archaïsation flagrante, se voit, évidemment, en tout cas en ce qui me concerne, dans le léger passéisme du matériel que j'ai cité. Le passéisme, donc, des concepts, des gestes, des pratiques que j'ai proposés, dans la chronologie littéraire, je n'ai même pas du tout dépassé Proust, dans le temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire un écrivain, peut-être le dernier, totalement, le dernier qui soit totalement, qui ait été totalement intégré au concept canonique de littérature. Et au fond, comme je le répète, ce dont j'ai parlé, c'est de la littérature romantique, au sens très large du terme, c'est-à-dire celle qui va, disons, de Rousseau à Proust. Alors, il est possible que, je le reconnais, que 95% des livres écrits aujourd'hui échappent au problème dont j'ai traité. Ah, ça, c'est la rançon qu'il faut payer au postulat subjectif que j'ai placé au début de ce cours. Alors, un autre symptôme d'archaïsation, c'est pas seulement le passéisme du matériel que j'ai utilisé, c'est aussi un sentiment brusque d'inadéquation entre l'actualité brûlante pour moi de ce que je fais, à savoir écrire, et une adéquation donc entre l'actualité de mon désir et l'actualité du monde qui m'environne. Chaque sphère, la sphère du mondain, la sphère du monde et la sphère du désir, chaque sphère est inactuelle pour l'autre. Et cela produit cruellement des gênes et des dérisions. Par exemple, le jour où j'ai préparé ces notes, c'était le 10 octobre 79, mais je laisse courir l'exemple parce que je l'ai écrit, mais je pourrais aussi bien reporter sur aujourd'hui, samedi 16 février, la même remarque. Bien, le jour où j'écrivais cela, ou plutôt le jour où je préparais le paragraphe de ce cours sur ce très très grave problème, peut-on continuer à lire des livres quand on entreprend d'écrire? Eh bien, ce jour-là, donc quand je débattais en moi et pour vous ce problème énorme, je jetais un coup d'œil sur le monde, c'est-à-dire sur le journal, pas le journal Le Monde, mais le journal qui parlait du monde, en l'occurrence c'était Libération, et ce monde me sautait au visage, rendant absolument dérisoire mes petits investissements personnels. C'était un jour où notamment le journal parlait de, toujours la même chose d'ailleurs, hélas, de bavures policières, de motards matraqués, de déchets nucléaires, d'affrontements à Cherbourg. Il y avait une lettre fort noble de Guattari au président de la République, refusant l'invitation à une journée de l'enfance et rappelant tous les thèmes gauchistes, les travailleurs immigrés, tabassés dans des commissariats, l'extradition du Pernod, l'assassinat de Goldman, etc. Et tout ça me sautait au visage pendant que j'étais en train de réfléchir si on pouvait lire pendant qu'on écrit. Et donc, pendant que je me donnant alors un sentiment douloureux d'extrême sophistication. Donc, il y a une sorte de chantage permanent de l'actualité à celui qui écrit, et à celui qui, en écrivant, fait mine d'oublier cette actualité. Cependant, alors il faut insister sur le cependant, qui est un cependant fort, du type de « et pour et si mauvais, et pourtant elle tourne, n'est-ce pas, disait Gagnier. Cependant, et pour et, au fond de cet enfouissement coupable, dans l'anachronisme, dans l'inactuel de l'écrire, il y a un désir intraitable et qui s'accommode de l'archaïsme littéraire dans la mesure, peut-être, où ce désir est lui-même archaïque. Premièrement, d'abord, parce qu'au fond, tout désir, en tant que désir, est archaïque. Et tout désir s'origine dans des zones occultes et incultes du moi, et par là même, tout désir représente un certain archaïsme du moi. Il n'y a pas finalement le désir en soi, le désir en soi-même, n'est jamais progressiste. Il est toujours féodal. Il est toujours archaïque. Et deuxièmement, ensuite, plus topiquement, parce que le désir d'écrire est, sinon puéril, du moins, on peut le dire, toujours adolescent. C'est un désir adolescent. On a remarqué que l'éveil de la vocation littéraire coïncidait toujours à peu près avec la puberté. Il y a donc une sorte de fixation, non infantile, mais adolescente, sur l'écrire. Il y a un semi-archaïsme de l'écrire, qui est sans doute d'ailleurs plus amoureux que du bien. Il correspond à une phase plus amoureuse, plus transférentielle que libère. Et ceci explique sans doute que le désir d'écrire résiste à toutes les pressions de l'actualité comme figure de la bonne intégration, et que ce désir surgit toujours vivant, extraordinairement vivant, proche et lui-même vivifié par sa propre actualité, son actualité ardente et intraitable. Je me souviens que l'été dernier, à la fin du mois d'août, j'ai pris l'avion pour aller à Biarritz, et dans l'avion, j'ai lu du Pascal. Et en lisant Pascal, j'ai été transporté, n'est-ce pas, alors que j'étais plongé dans un acte absolument quotidien de voyager en avion pour aller dans un coin de la campagne de la province française, j'ai été transporté par ce texte, et j'ai été transporté par sa vérité, par la vérité d'un texte n'étant pas forcément la vérité de ce qu'il dit, mais étant bien sûr la vérité de sa forme, notion paradoxale, mais du point important. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, aimer la littérature, c'est au moment où on la lit, au moment où on lit, dissiper toute espèce de doute sur son présent, son actualité, son immédiateté. En lisant Pascal, je dissipais toute espèce de doute sur la non-actualité ou l'actualité de Pascal. C'est-à-dire que je voyais en lisant Pascal que Pascal était un homme vivant qui parlait comme si son corps était à côté de moi dans l'avion, et qu'il était à ce moment-là beaucoup plus actuel que Khomeini ou Bokassa. C'est Pascal qui était vivant. C'est Pascal qui était vivant parce que c'est Pascal qui avait peur de la mort, ce qui ne semble pas arriver à Khomeini, et que Pascal avait peur de la mort et qu'il s'en étonnait jusqu'au vertige, et que cette peur était absolument vivante 3 ou 4 siècles plus tard. Donc, trouver actuel et vivant ce qu'on lit, c'est trouver que ces mots anciens que je lisais dans Pascal, par exemple « misère de l'homme » ou « concupiscence », exprimaient parfaitement des choses présentes qui étaient en moi, et en un sens, c'était ne pas sentir le besoin d'un autre langage, finalement. Il y a là, tout d'un coup, une sorte de miracle de la littérature qui fait que on pense qu'on n'a pas besoin d'un autre langage que celui de la littérature. Et il faudrait peut-être se servir de ces réflexions pour distinguer entre deux notions. Le présent serait une notion distincte de l'actuel. Le présent est vivant, tandis que l'actuel peut n'être qu'un bruit, quelque chose qui n'est pas vivant. Alors, on peut ajouter à cela que ce désir de la littérature est, dans certains cas, en tout cas c'est mon cas, d'autant plus aigu, d'autant plus vivant, d'autant plus présent, que, effectivement, je peux sentir, moi, la littérature, je peux la sentir en train de dépérir, en train de s'abolir. Et je puis me penser comme l'un des témoins de ce dépérissement. Et dans ce cas, à ce moment-là, j'aime la littérature d'une sorte d'amour pénétrant et bouleversant même, comme on aime et comme on entoure de ses bras quelque chose qui va mourir. Ce sentiment que la littérature comme force active, comme mythe vivant, et non pas en crise, qui est une formulation trop facile et vide, mais peut-être plus sérieusement en train de mourir, parce que finalement, être en crise, c'est toujours un signe de vie. Ben, le monde est toujours en crise, il continue toujours à vivre. Mais peut-être que la littérature a dépassé l'état de crise pour entrer dans son dépérissement. Et de ce dépérissement, il y a peut-être quelques signes parmi d'autres que je vais vous proposer. Des signes de désuétude, des signes d'essoufflement. Alors naturellement, ces signes sont très subjectifs, on peut les contester. Ils sont surtout très rudimentaires, enfin, ils n'ont aucune dimension dialectique, et je reconnais que c'est très subjectif, et c'est un simple dossier à compléter, c'est quelques points d'enquête. Alors, quelques signes de désuétude, dont d'ailleurs je crois que j'ai déjà parlé, plus ou moins. Premier signe, il faudrait avant toute chose faire le point sérieusement sur la situation de l'enseignement de la littérature aujourd'hui. L'école secondaire, primaire et secondaire, plus que l'université finalement, étant le lieu où se formait à la fois l'amour de la littérature et sa mythologie. Sa mythologie, c'est-à-dire à la fois son respect et son ridicule. Hein? L'école a toujours développé un mythe, disons, ambivalent de la littérature, qui est effectivement un mythe de respect, d'amour, de la valeur qu'elle représente, et en même temps la possibilité de la mettre sous sa forme scolaire en ridicule. Et de cette ambivalence, on trouve d'ailleurs des traces, et une trace dans Proust, car toute œuvre de Proust est, disons, une apologie de la littérature, de la chose écrite, des écrivains passés, qu'il connaissait, qu'il aimait, mais en même temps, vous rappelez qu'il y a une espèce de chant d'une des jeunes filles en fleurs, de Gisèle, n'est-ce pas, sur Racine, qui rencontre, je ne sais plus qui, Euripide, je crois, aux enfers, et il fallait imaginer le dialogue de ces deux grands écrivains. Je vous renvoie à cette dissertation merveilleuse, qui est une charge à la fois de l'école, mais qui en même temps suppose un amour de la littérature. Or, sur ce problème de la situation de l'enseignement de la littérature, je suis incompétent. Je ne peux pas témoigner ni de l'attitude des professeurs, ni de celle des élèves, parce que j'ai fait très peu d'enseignement secondaire, j'ai fait peut-être un an ou deux d'enseignement secondaire au début, donc c'était au début de la guerre, et donc l'enseignement était encore complètement immergé dans d'anciennes valeurs. Donc je ne peux pas témoigner avec ma propre compétence, et il faudrait interroger les professeurs d'aujourd'hui. Et je suppose que sur l'attitude des élèves à l'égard de la littérature, et d'une façon plus générale du lire, le diagnostic, je suppose, enfin d'après ce que j'entends, ne serait pas très brillant. Alors, c'est un dossier évidemment très complexe parce que l'image de la littérature est, dans un pays comme le nôtre, est finalement très directement tributaire de données politiques, économiques et sociales. Vous savez qu'il y a actuellement un énorme, dans l'enseignement, un énorme recul des lettres, des humanités, des lettres, recul qui est voulu par le pouvoir, par le gouvernement, au profit de métiers plus techniques, au profit, disons, d'une technocratie, avec ces signes que vous connaissez bien, le malthusianisme des postes d'enseignement, le chômage universitaire, etc. Et si on voulait prolonger ces données politiques par une sorte d'enquête idéologique ou mythologique, il faudrait étudier l'évolution et probablement la dégradation de la figure du professeur de lettres. Je ne sais pas, je suggère, n'est-ce pas? Mais il faut penser à ce qui était, par exemple, pour un homme comme Proust, c'est-à-dire vers 1885, à ce qu'était pour un homme comme, pour un adolescent comme Proust, au lycée Condorcet, à ce qu'était pour lui ses professeurs de lettres. Les rapports de confiance, d'amour, d'amicalité, d'affection, de respect qu'il avait pour ses professeurs de lettres. Il suffit de lire sa biographie pour voir cela. Alors, je ne sais pas si maintenant les élèves ont un tel type de rapport avec leurs professeurs de lettres. C'est une question à poser. En tout cas, si la mythologie du professeur de lettres est moins positive qu'autrefois, il est évident que cela fait de ce métier un métier très dur. Parce que c'est un métier qui est mal payé et qui n'est plus soutenu par des compensations d'ordre imaginaire, en quelque sorte. Donc, premier point, interroger l'enseignement de la littérature dans les lycées, les collèges, à l'école. Deuxième point, attendez, j'avais autre chose à dire, oui. Sur le scolaire, je complète un petit peu. De toute manière, la littérature à l'école s'empoisse, si je puis dire, dans l'image mauvaise du scolaire lui-même, parce que le scolaire est passé à l'état d'image mauvaise. Et il y a un malheur idéologique maintenant de l'écriture littéraire. Enfin, l'écriture proprement littéraire est en mauvaise passe. Elle est compromise à la fois, premièrement, je dirais, dans ce qu'on imagine être, ou ce qu'on imagine avoir été, la propriété de la classe dominante. Elle est entraînée dans l'avenir même dévalorisant imaginairement de la bourgeoisie. Deuxièmement, cette écriture littéraire est entraînée dans la dévalorisation générale attachée au passé. Hein. Troisièmement, elle est discréditée à travers le mythe qui prévaut chez certains que la pratique de la forme est une activité sophistiquée et décadente. Enfin, l'écriture littéraire est compromise dans le fait que la survie de la littérature est prise en charge par des académismes en général. D'où des attaques contre cette écriture littéraire qui viennent parfois de l'intelligentsia elle-même. C'est par exemple le cas de Foucault, qui se demande, ou qui veut, qui demande qu'on lève enfin, je cite, la souveraineté du signifiant, voire l'écriture littéraire, ou que on tienne à l'écart les vieilles méthodes académiques de l'analyse textuelle et toutes les notions qui dérive du prestige monotone et scolaire de l'écriture. Il y a donc un rejet moderniste du style comme une valeur purement scolaire, précisément. Et vous en trouvez évidemment des signes de ce rejet, des signes prémonitoires chez un écrivain comme Céline, hein, qui, pas seulement dans son style, qui est magnifique, d'ailleurs le paradoxe c'est qu'il a créé un style aussi beau que tous les styles littéraires, et qui est un style littéraire, finalement. Mais vous le trouvez dans ses déclarations pleines d'ironie à l'égard de ce qu'il appelle le style de Bachot, la phrase de Voltaire, Renan et France. À quoi j'ajouterai, mais si moi j'ai le goût pervers de ces styles-là, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais être réprimé, ma perversion va être réprimée. Mais ça, c'est pas moderne de réprimer une perversion. Bien. Alors, une autre modification et un autre signe de désuétude, mais je ne fais que dessiner la case du dossier, comme toujours, c'est, me semble-t-il, la disparition des leaderships littéraires. Pendant plusieurs siècles, en tout cas pendant 200 ans, depuis le classicisme, au moins, la littérature française a été une grande structure hiérarchisée de figures majeures, de figures mineures, d'écoles, etc., de courants. Et, en un sens, pendant tout ce temps-là, Tout intellectuel engagé, on ne parlait pas encore d'intellectuel, c'est un mot qui date, disons, du point de vue lexicographique ou lexicologique, plutôt c'est un mot qui doit dater de l'affaire Dreyfus. Hein. C'est un mot appliqué par la droite au Dreyfusard, intellectuel. Alors, tout intellectuel engagé pendant ce temps-là était au fond consubstantiellement un écrivain. Alors que maintenant, il y a beaucoup d'écrivains, la plupart des écrivains sont des professeurs, et il y a des professeurs qui ne sont pas écrivains. Donc l'écrivain était une figure mythique de la société pendant 200 ou 300 ans. Et donc il cristallisait des valeurs de cette société. Et encore entre les deux guerres, c'est-à-dire dans le temps, moi, où j'ai été adolescent, et où donc j'ai eu un contact neuf et frais avec la littérature, eh bien entre les deux guerres, enfin entre les deux dernières, il y a eu, comme vous le savez, encore à ce moment-là, de grands leaders littéraires, Claudel, Gide, Valéry, Mauriac, Malraux, etc. Pas etc., on ne sait pas s'il y en avait d'autres. Enfin, en tout cas, il y avait ceux-là. Et ces grands leaders ont disparu, naturellement, les pauvres, peu à peu, mais ils n'ont pas été remplacés. Hein. Le dernier qui est disparu, c'est Malraux. Il reste Aragon. Et je crois d'ailleurs que ça fait partie du phénomène du mythe Aragon d'être effectivement, en plus de bien d'autres éléments, ça va de soi qui tiennent à lui, alors, ça fait partie du mythe Aragon d'être l'un des derniers grands écrivains, entre guillemets, hein, de la littérature. Alors, cette mutation devrait être observée et analysée au niveau d'un homme qui est absolument charnière entre le leadership et sa destruction, et par là même qui a une valeur significative extrêmement intense, et cet homme charnière, mythologiquement, c'est Sartre. Car Sartre a fonctionné, et peut-être fonctionne encore maintenant, comme une figure tout de même, sans doute du grand intellectuel, mais aussi du grand écrivain, parce qu'il a écrit des pièces de théâtre, des romans, et que l'écriture de ses essais est une écriture littéraire, et en même temps, c'est celui qui a dégonflé le mythe de l'écrivain, c'est-à-dire du monsieur écrivain. Donc il a été à la fois une incarnation, une dernière incarnation du mythe, il est, et en même temps un destructeur de ce mythe. Et on pourrait résumer cette déshérence du leadership littéraire pour la France d'une façon un peu grossière et dérisoire, en disant que, à première vue, peut-être l'avenir me donnera un démenti, je n'en sais rien, mais à première vue, il n'y a plus en France de nobélisables, des nobélisables, c'est-à-dire des gens qui soient susceptibles de recevoir le prix Nobel de littérature. Peut-être, j'espère, être démenti, mais je ne vois pas très bien comment actuellement cela pourrait se présenter. Ah, et ça, c'est un signe, évidemment, socio-historique. Enfin, troisième remarque sur la désuétude de mythe littéraire, je dirais que ce cours ici, qui va se terminer, a été si essentiellement archaïque, comme le désir dont j'ai parlé, que son objet, en un sens, n'a plus cours dans les lettres, à savoir la notion d'œuvre. Le mot œuvre est un mot déjà anachronique. On dirait que ceux qui écrivent, produisent et veulent produire, ils produisent des livres, mais il n'y a plus ou presque plus cette intentionnalité typique de l'œuvre comme monument personnel, objet fou d'investissement total, comme cosmos personnel, comme pierre construite par l'écrivain le long de l'histoire. D'où encore une fois, et quel que soit ce qu'on en pense par ailleurs, le caractère exceptionnel et finalement probablement anachronique, quand le livre paraîtra, parce qu'il n'est pas encore paru, du paradis de Solers, qui se vit en tout cas, et s'annonce et se déclare comme véritablement une œuvre, et pas un livre. Alors la raison, c'est-à-dire qu'avec ce genre de phénomène, on ne sait jamais s'il s'agit de traces, d'indices ou de causes, eh bien c'est sans doute ceci, c'est que l'écrit n'est plus la mise en scène d'une valeur ou d'une force active. Il n'est plus ou est mal rattaché à un système, à une doctrine, à une foi, à une éthique, à une philosophie, à une culture. L'écrit se produit dans une coulée idéologique du monde sans cran d'arrêt, sans cran d'arrêt. Or l'œuvre et l'écriture qui en est la médiation, c'est précisément un cran d'arrêt. C'est ce qui arrête la roue libre du stéréotype ou la roue libre de la folie. Quand vous recevez le tout venant de la littérature, semaine après semaine envoyé par les éditeurs, vous avez cette impression de roue libre, précisément, c'est-à-dire d'un mouvement d'alimentation de l'édition et du livre qui se produit sans cran d'arrêt. Probablement, on pourrait dire que cette absence de cran d'arrêt est un signe de nihilisme et que l'œuvre disparaît parce que l'œuvre était toujours, quelle que soit sa philosophie, non nihiliste. Nietzsche définissait le nihilisme comme ce moment où les valeurs supérieures se déprécient. Or, comme actuellement les valeurs supérieures se déprécient, il y a, flotte dans notre monde, un certain nihilisme. Quatrième indice de désuétude, l'écrire n'est plus l'objet d'une pédagogie au sens vaste du terme, et je distingue ceci de l'enseignement de la littérature dont j'ai parlé. Comme vous le savez, il n'y a plus de rhétorique, c'est-à-dire d'art enseignable, de techné, de parler, d'écrire en vue de certains effets. Ça n'existe plus. C'est-à-dire, le langage n'est plus conçu comme un dispositif fort, systématique, d'effet. Alors, je n'insiste pas sur la mort institutionnelle de la rhétorique, qui a eu lieu à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle. Moi-même, quand j'étais en classe de première A, c'est-à-dire de latin grec, au lycée Louis-le-Grand, toujours tout près, la classe de première lettre, ça s'appelait encore la classe de rhétorique. Ça s'appelait la classe de rhétorique. Or, ça a complètement disparu. Et je ne veux pas insister là-dessus parce que j'ai fait l'un de mes premiers séminaires à l'école des hautes études en 65-66 sur la rhétorique. Et j'ai parlé de tous ces problèmes. Alors, la rhétorique a disparu, on ne s'en sait plus. Elle a été remplacée, semble-t-il, par une chose assez horrible, qu'on appelle les techniques d'expression. Quelle idéologie, n'est-ce pas ? Techniques d'expression. C'est-à-dire les contractions de texte, les résumés, les writings, etc. Or, bien entendu, il y avait un lien étroit entre l'enseignement rhétorique et l'écriture des écrivains dont j'ai parlé. Même si la rhétorique dans son enseignement au XIXe siècle paraît aujourd'hui comme quelque chose de ridicule et de répressif et de mesquin, malgré tout, elle alimentait, il y avait là une sorte de conception de l'écriture qui alimentait le style des grands écrivains. Il ne faut pas oublier que Flaubert, c'est quelqu'un qui a fait pendant toute son adolescence de la rhétorique. Or, il semble que maintenant, et encore, j'espère, mais disons qu'au XIXe siècle, l'enseignement était dominé par l'idée qu'il existait un art d'écrire et que enseigner consistait à enseigner l'art d'écrire. Et puis ensuite, il y a eu mutation du mot d'ordre et on a dit que l'école devait enseigner l'art de lire, n'est-ce pas ? Le mot d'ordre de l'école primaire et secondaire, savoir lire les textes, avoir un pouvoir de lecture orienté, critique, savoir lire un texte. Voilà ce qu'on faisait dans les lycées. Et plus du tout savoir écrire. Ça a disparu de la finalité de l'enseignement. Alors une forme supérieure de cette pédagogie ou de cette psychagogie de l'écrire se trouvait non plus au niveau des institutions et des enseignements, mais dans l'intercommunication des écrivains entre eux sur les problèmes de la pratique d'écriture. Il y avait au fond une rhétorique inter pares entre gens égaux et qui s'exprimait dans les correspondances d'écrivains qui sont très importantes, Flaubert, Proust, Kafka, et aussi dans les conseils donnés par un écrivain à un écrivain plus jeune. C'est le thème des conseils qu'il faudrait reprendre. Il faudrait rappeler le très beau texte de Rilke qui s'appelle « Lettre à un jeune poète ». Or, il semble que ces conseils ont disparu. Il n'y a plus de transmission de problèmes de l'écrire ou de l'art de l'écrire entre écrivains. Et j'ai trouvé dans le manuscrit d'un ami qui est d'ailleurs là dans la salle, cette déclaration de Cortázar, c'est une déclaration donc très actuelle de Cortázar, mais qui sonne comme une déclaration finalement très anachronique, car c'est un conseil d'écrivain que donne Cortázar. Et il écrit « Je conseillerais à un jeune écrivain qui a des difficultés pour écrire, si c'est amical de donner des conseils, qu'il arrête un certain temps d'écrire pour lui-même et qu'il fasse des traductions. Qu'il traduise de la bonne littérature et un jour il se rendra compte qu'il peut écrire avec une aisance qu'il ne possédait pas auparavant. La forme essentielle du conseil à l'écrivain concerne finalement moins la pratique que la volonté même d'écrire. C'est-à-dire que se pose le cadet, pose à son aîné cette question à laquelle il demande qu'on réponde. Est-ce que je dois écrire? Est-ce que je dois continuer d'écrire? Et tous, Flaubert, Kafka et Rilke, répondent la même chose. Ils disent que ce n'est pas une question de don, de talent, mais que c'est une question de survie. Écrivez s'il est sûr qu'en n'écrivant pas, vous dépéririez. C'est une question, si c'est une question pour vous de vie ou de mort d'écrire, alors à ce moment-là, vous répondez vous-même que vous devez écrire, indépendamment des problèmes de talent. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'on appelait la vocation. Par exemple, Flaubert dit à un certain monsieur X, « Je voudrais vous écrire une très longue lettre relativement à votre résolution d'être tout à fait un homme de lettres, enfin, comme on disait à l'époque. Si vous sentez un irrésistible besoin d'écrire et que vous ayez un tempérament d'Hercule, vous avez bien fait. Sinon, non. Je connais le métier, il n'est pas doux. » etc. Donc, le conseil consiste à renvoyer l'autre à son désir, ou mieux encore, à la connaissance de son désir. Or, il est toujours difficile de connaître son désir. C'est sans doute l'une des choses les plus difficiles au monde, de connaître son désir. Et beaucoup d'êtres se débattent dans l'intention d'écrire et n'y arrivent pas. C'est-à-dire, ont à l'égard de l'écriture une pratique essentiellement velléitaire. Et c'est peut-être qu'au fond, ils n'en ont pas vraiment le désir. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui vous répète sans cesse qu'il veut écrire et qui vous demande qu'on l'aide à écrire. Il ne faut pas lui dire automatiquement « écrivez ». Mais oui, écrivez, vous êtes fait pour ça, écrivez. Ça n'est pas du tout sûr. Il est très possible que le désir d'écrire soit un faux désir qui en masque un autre, inconnu du sujet, lui-même. Car vouloir écrire peut très bien n'être qu'un symptôme déplaçable. Mais bien entendu, cela, seul le sujet lui-même peut le savoir, et le donneur de conseils s'arrête, en général, devant la blessure narcissique qu'il sait devoir donner à l'autre s'il lui dit « n'écrivez pas, ou cela n'en vaut pas la peine ». Qui, vraiment, peut-être qu'il se trouve des écrivains qui ont le courage de dire à quelqu'un « n'écrivez pas ». Malgré la clarté apparente de ce que je dis là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à avoir ce courage, mais dans mon cas, c'est que souvent, en plus, je ne sais pas. De toute manière, si S'il est difficile de dire à quelqu'un n'écrivez pas, c'est que l'agraphisme, le fait de ne pas écrire, n'a pas bonne réputation. Socrate, oui, il y a eu Socrate, mais Socrate avait, vous savez, son télos, son envie d'écrire, détourné en la personne de Platon. Alors, pour clore ceci, d'après mon expérience aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus aucune demande adressée à celui qui a écrit, de la part de gens qui sont plus jeunes, qu'il n'y a pas de demande de conseils pratiques. C'est-à-dire, on ne vous demande plus des conseils pratiques qui concernent la pratique d'écriture. Mais il y a toujours, sans doute, une forte demande de reconnaissance par l'écriture. Donc, ce qui est changé, la désuétude porte non pas forcément sur le désir d'écrire, mais elle porte sur la perte du sentiment que l'écriture est liée à un travail. Voilà, je crois que ça c'est vrai. Je crois que ce qui s'est perdu, c'est le sentiment que l'écriture est liée à un travail, par exemple à une pédagogie, ou même à une auto-pédagogie, et à une initiation. C'est-à-dire que la pulsion d'écrire se manifeste dans une sorte d'innocence irréaliste, et que celui qui veut écrire, en général, refuse de penser la médiation. Il est là, il veut écrire, et il refuse de penser la médiation. Car cette médiation, quelle est-elle? Eh bien, c'est le travail. Vouloir écrire, ça veut dire vouloir travailler. Et le travail n'est pas à la mode. Alors, cinquième remarque, j'ai parlé de la disparition des leaders littéraires. Bon, le leader, c'est encore une notion sociale, n'est-ce pas? C'est une figure de l'organisation de la culture. Mais dans la communauté des écrivains, il y a un autre mot qui s'impose à la place de leader. C'est, par exemple, lorsque Baudelaire dit à propos de Poe, d'Edgar Poe, il dit « l'un des plus grands héros littéraires ». L'un des plus grands héros littéraires. Et effectivement, c'est cette figure ou cette force du héros littéraire qui aujourd'hui se dévitalise. Vous pouvez penser à Mallarmé, à Kafka, à Flaubert, à Proust même, hein, et ils vous répondront finalement ce qu'était l'héroïsme littéraire. Une sorte d'exclusivité absolue accordée à la littérature, une sorte de monomanie, d'idée fixe, mais aussi une transcendance qui pose la littérature comme le terme plein d'une alternative avec le monde. La littérature est tout, et elle est le tout du monde. Voilà ce que doit penser le héros littéraire. Et il y a des déclarations radicales et consciemment, philosophiquement radicales de Mallarmé à ce sujet, vous les connaissez sans doute. Oui, que la littérature existe, et si l'on veut, seul à l'exception de tout. Seul à l'exception de tout. Et dans l'interview, l'un des premiers interviews littéraires qui existait, malheureusement pas le dernier, à Jules Buret, en 91, Mallarmé dit « Tout, virgule, tout au monde existe pour aboutir à un livre. Tout au monde existe pour aboutir à un livre. » Et d'une façon plus existentielle, enfin moins doctrinale, mais plus déchirante, Kafka, dans une lettre, dit « S'il m'est arrivé d'être heureux autrement que par la littérature et ce qui était lié, je ne sais pas au juste si le cas s'est produit, alors justement j'étais incapable d'écrire, si bien que les choses à peine mises en train basculaient immédiatement, car ma nostalgie de la littérature l'emporte sur tout. Ma nostalgie de la littérature l'emporte sur tout. » L'héroïsme, c'est aussi, l'héroïsme littéraire, c'était aussi l'attachement intraitable à une pratique, c'est-à-dire la revendication contre le monde d'une autonomie, d'une solitude. Et cela, paradoxalement, à partir d'une imitation. L'imitation selon la littérature, l'imitation selon l'auteur aimé. Et c'est à partir de cette imitation dont j'ai parlé tout à fait au début du cours, au mois de décembre, que le héros doit reconquérir ce que Husserl appelle un refus d'hériter. Le refus d'hériter que Husserl appelle irrévocablement d'en finir avec cette habitude de céder, de faire comme tout le monde, avec des prénoms, de faire comme tout le monde, de me prendre pour un autre. Je résolus donc d'en finir avec cette habitude de me prendre pour un autre. Alors là, la dialectique de l'écrire littéraire, c'est qu'on commence par se prendre pour un autre en imitant un écrivain et ensuite on cesse de se prendre pour cet écrivain. C'est cela qui se passe. Et le troisième attribut de l'héroïsme, c'est évidemment la solitude. Apprendre la littérature, c'est apprendre à être seul jusqu'à la malédiction, c'est-à-dire jusqu'à la réprobation ironique du monde. Et encore Kafka, quand il commence à écrire, vers 1897-98, il raconte qu'un dimanche après-midi, il est à Prague, n'est-ce pas, il écrit, il est chez lui, dans sa famille, et il écrit quelque chose, une sorte de bout de nouvelle, un texte sur deux frères, l'un est en Amérique, l'autre est en prison, etc. Et un de ses oncles lit le texte de Kafka qu'il vient d'écrire devant la famille. Situation horrible. C'est la preuve. Parce que l'oncle, à ce moment-là, dit aux autres membres de la famille le fatras habituel. Le fatras habituel. Et Kafka commente « Je restais assis et continuais à me pencher comme avant sur ma feuille, apparemment inutilisable. Mais en fait, ça c'est très beau, mais en fait, j'étais chassé de la société d'un seul coup. Le jugement de l'oncle se répéta en moi avec une signification déjà presque réelle et j'acquis, au sein du sentiment familial, un aperçu des trois espaces de notre monde qu'il me faudrait réchauffer à l'aide d'un feu que je voulais chercher d'abord. » Alors un tel héroïsme, pour en finir avec l'héroïsme que j'ai décrit au passé, est-ce qu'un tel héroïsme existe aujourd'hui? Bien peut-être, je dirais sans doute même. Mais ce qui est sûr, c'est que la littérature elle-même, ou disons prudemment ce qui s'écrit, n'emporte pas trace, n'emporte pas témoignage. Je dirais que le seul et dernier témoin de cet héroïsme littéraire, dans tous les sens que j'ai essayé de dire, me paraît être Blanchot. Mais peut-être précisément aussi, cet héroïsme est-il appelé à être aujourd'hui clandestin, un peu comme l'est Blanchot, comme l'a toujours été Blanchot, qui est un homme qui a écrit des choses merveilleuses et importantes, mais qui n'a jamais, livré une parcelle de sa personne au public. Il n'y a pas de photographie de Blanchot, il n'y a pas d'émission d'interview de Blanchot, et à peine sait-on où il habite, je dirais avec l'affection que j'ai pour lui, à peine sait-on s'il vit encore. C'est donc une clandestinité absolue. Et peut-être que c'est ça maintenant le héros littéraire. C'est quelqu'un de tellement clandestin que personne au monde ne peut plus en parler. Et donc c'est là un héroïsme qui évidemment n'a plus aucune des arrogances de l'héroïsme social. Un héroïsme souvent militaire et même militant. C'est un héroïsme, donc, s'il existe, il ne paye pas de mine, car il est traversé de douleurs, de difficultés, de plaintes, au point, et c'est là la quiétude, que la société ne le reconnaît même plus, c'est-à-dire ne l'identifie plus et ne reconnaît plus sa valeur, c'est-à-dire son droit à être assumé. Et je pensais que la littérature aujourd'hui, cela me faisait penser, au final d'une symphonie de Haydn qui est connue, qui s'appelle la symphonie des adieux. Vous savez, dans ce final, les instrumentistes s'en vont l'un après l'autre, et tout à fait à la fin, il reste les deux violons qui continuent à jouer à la tierce. Alors ils restent, mais ils soufflent leur bougie. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont héroïques et chantants, si j'ose dire, ou héroïques et jouants. Enfin, et bien, c'est un peu ça, peut-être, la littérature. Je vais m'arrêter maintenant parce que il faut que je vois un petit peu moi-même l'ordre de ce que j'ai à dire. Alors nous reprenons à 11h30, si vous voulez bien. Je reprends et je continue. À partir de ces quelques signes de décrétude de la littérature, c'est du moins ainsi que je l'ai dit, je, c'est-à-dire celui qui veut écrire, l'œuvre, presse continuellement, avec son travail, sa pratique d'écriture, un sentiment de séparation avec mon rôle, le monde présent en tant que théâtre de l'histoire. Et donc, la troisième épreuve que je décris maintenant, et, disons, le fantôme d'un certain exil. Je conçois l'œuvre, je projette, je travaille, mais je dois le faire immergé, si je puis dire, dans une sorte de biosphère intellectuelle dont je sens ou dont je crois qu'elle n'est pas au rejet de mon travail et à mon désir. Et cet exil, bien sûr, n'est pas net, il résulte d'une sorte de front de questions que je me pose et que je vais me poser avec vous. C'est-à-dire, moi, qui veux faire une œuvre, qui ai décidé de tout lui sacrifier, eh bien, je me demande, c'est la question que je me pose, je me demande où elle prend place, cette œuvre, où elle prend place. C'est-à-dire, premièrement, dans quelle histoire, avec un grand H. Deuxièmement, dans quelle société? Et troisièmement, dans quelle langue? Et je vais donner quelques touches sur ces trois interrogations. Alors, d'abord, dans quelle histoire est-ce que l'œuvre que je veux faire prend place? Alors, il semble qu'il y a ici deux problèmes. Le premier, c'est un problème classique de la théorie de la littérature, c'est comment l'écrivain représente-t-il, entre guillemets, parce que le mot représentation est très discuté, comment l'écrivain représente-t-il ou exprime-t-il l'histoire, c'est-à-dire son présent en tant qu'il le veut intelligible. C'est un problème, je dirais, esthétique, et ce serait évidemment un tout autre sujet de cours qui relèverait d'une théorie historique de la littérature. Et ce n'est pas mon propos qui a été jusqu'à présent existentiel et non pas esthétique. Alors, je peux indiquer seulement ceci, une mise en garde qui va de soi contre l'idée sublime, je crois, que les grandes œuvres du passé ont exprimé ou exprimé la grande histoire par ses grands côtés. Cela peut arriver. C'est par exemple le projet même de Guerre et Paix de Tolstoï, qui est un vaste poème historique, une épopée de la société russe à l'époque napoléonienne. Mais très souvent, de grandes œuvres n'ont avec l'histoire qu'un rapport marginal, secondaire, indirect, parcellaire et je dirais miniaturisé paradoxalement. Est-ce que vous pouvez imaginer un écrivain plus historique, c'est-à-dire plus engagé dans l'histoire de son temps, que Dante? Et pourtant, si vous lisez l'Enfer, vous allez trouver quoi? Pas du tout la grande histoire. Pas du tout. Vous allez trouver, très présente, très vivace, mais vous allez trouver des querelles de petites bandes, de familles, de quelques villes, même de bourgades, qui entourait Florence. C'est ça que vous allez trouver. Et pas du tout la grande histoire. Mais bien sûr, ces petites querelles se retrouvent dans la transcendance absolue du mal. C'est récupérer un autre niveau de l'œuvre. Donc ce sont les modes de la représentation qu'il faudrait étudier et les ruses du rapport entre l'œuvre et la grande histoire. Alors le second problème, qui est plus proche d'une existentialité de l'écrivain et non pas d'une esthétique, ça serait le suivant. Qu'est-ce qui, dans l'histoire, c'est-à-dire dans mon histoire, dans l'histoire de ma vie, vient me mobiliser? Comment est-ce que mon existence structure mon histoire et l'articule de telle sorte que cette articulation infléchisse mon œuvre, mon rapport à l'œuvre? Par exemple, si nous prenons un écrivain qui a un rapport existentiel très fort à l'histoire de son temps, déjà, ce n'est pas du tout l'auteur éthéré et scolaire, enfin, de René Natala, mais un écrivain qui a été farouchement engagé, je dirais engagé plus que Sartre et Malraux réunis, eh bien, nous voyons qu'il y a une sorte d'oscillation entre deux postulations chez Chateaubriand. La première, c'est de dire « Je suis viscéralement exclu de mon contemporain, je suis rejeté par toutes mes fibres de l'histoire qui se fait, et je suis renvoyé passionnément, désespérément, à l'histoire abolie, à l'histoire passée. Et je n'aime ni ne comprends rien d'actuel, j'aime et je comprends l'inactuel. Je vis le temps comme une dégradation de valeur. » Et je cite Chateaubriand parce que c'est très beau, quand il dit, c'est en 1833, c'est-à-dire au début de l'installation complète du pouvoir de la bourgeoisie, du pouvoir politique et économique de la bourgeoisie en France. Et il écrit, la France n'a presque plus rien de son passé si riche. Elle commence une autre ère. Je reste, oui, c'est toujours des images sublimes, madame Chateaubriand, je reste pour enterrer mon siècle, comme le vieux prêtre qui, dans le sac de Béziers, dans les Albigeois, le vieux prêtre qui, dans le sac de Béziers, devait sonner la cloche avant de tomber lui-même lorsque le dernier citoyen aurait expiré. Alors ce passéisme a ici toute l'ambivalence d'une passion, c'est-à-dire d'une jouissance et d'une culpabilité, et ce passéisme absolu, cette passion du passé, pourrait s'appeler plaisamment, je vais vous dire pourquoi, le polycarpisme, P-O-L-Y-carpisme. Pourquoi? Eh bien, je dis ça plaisamment, bien sûr, parce que Flaubert, qui ne supportait pas son temps, et pourtant, bien sûr, moi depuis l'historique de Madame Bovary, pour l'éducation sentimentale, Flaubert voulait prendre pour patron un certain Saint Polycarpe, car Saint Polycarpe, je ne sais pas du tout quand il a vécu, ni ce qu'il a fait, pourquoi il est devenu saint, mais il était, paraît-il, toujours indigné, et il répétait sans cesse, mon Dieu, dans quel siècle m'avez-vous fait naître? Alors on pourrait appeler ce sentiment, qu'à chaque fois qu'on dit mon Dieu, dans quel siècle m'avez-vous fait naître, c'est du polycarpisme. Alors il y a cette première postulation, n'est-ce pas, j'aime passionnément le passé, je suis exclu de mon présent, et deuxièmement, un entêtement, je dirais, grandiose et passionné chez Chateaubriand à dire et à sentir qu'on est à la fois là, qu'on n'est pas là, mais aussi qu'on est là. C'est-à-dire qu'on est au fond à la jointure même du monde ancien et du monde nouveau, et que le champ qu'on occupe, c'est topiquement le champ d'une jointure. Cette jointure est pensée finalement comme la chose à écrire. C'est la jointure qui doit être écrite. Reste à savoir, bien sûr, c'est à décider, à désigner de la facture du monde, de l'histoire que vous avez vécue, que vous vivez profondément, d'une façon vivante et totale. Enfin, pour Chateaubriand, c'était relativement facile, parce que la jointure, la ligne de partage des eaux a été un événement historique absolument grandiose qui a été la Révolution française. Il avait exactement l'âge de Bonaparte.
Ils sont nés tous les deux en 1768. Lui, Chateaubriand, est mort en 1848. Et donc, c'est la Révolution française qui a séparé sa vie, en tout cas pas sa vie, si vous voulez, chronologiquement, mais son existentielle, en deux histoires. Il avait 25 ans, Chateaubriand avait 25 ans en 93, qui est la vraie date charnière de la Révolution, et pas 89, bien sûr, que la prise de la Bastille est en fait un événement assez dramatique. Donc, Chateaubriand s'est vraiment trouvé à la jointure. Et c'est cette jointure qu'il a finalement décrite. Qu'il a plutôt écrite. Alors, on pourrait se demander si toute vie d'écrivain a, elle aussi, sa fracture historique. Pas au lieu de faire, comme dans le Castrix et Surer dont je vous ai parlé, des petits ronds pour indiquer les crises sentimentales ou les crises métaphysiques, on pourrait se demander si, dans la vie d'un écrivain, il y a une fracture historique, quelque part. C'est-à-dire, peu importe le jugement qu'on porte sur l'histoire, mais si à un certain moment, cet écrivain a eu le sentiment, pendant sa vie, que l'histoire se cassait en deux. Je dirais que, bien sûr, il faut faire cette interrogation d'une façon souple, et il ne s'agit pas seulement des ruptures proprement politiques, ou des ruptures de régime, mais il y a des ruptures et des mutations de sensibilité, et qui, même si elles ne sont pas suivies de transformations politiques, peuvent avoir une importance très grande dans un retentissement très grand dans l'existentialité d'un écrivain. Par exemple, pour des écrivains comme Proust, pour un écrivain comme Proust, il y a eu une rupture historique décisive qui n'a pas correspondu du tout à un changement de régime en France. Ça a été, vous le savez, l'affaire Dreyfus. Alors là, on peut dire que c'était vraiment une fracture historique et qui a d'ailleurs cassé l'intelligentsia de l'époque et les écrivains aussi en deux plans. Nous aurons un écho de cela dans les photographies du monde proustien que nous allons voir. Pour moi, je ne sais pas très bien, mais je crois pouvoir dire que pour moi, s'il y a une fracture historique, enfin moi qui en ai une nouvelle qui arrive dans les années à venir, mais la fracture historique n'a pas été la guerre de 40, mais je dirais que plutôt ça a été mai 68. C'est mai 68 qui m'a posé des problèmes. Et des problèmes tels que je ne peux pas imaginer d'écrire sans tenir compte de ces problèmes. C'est là que se trouve. Il y a eu une mutation de sensibilité pour moi, dans ma vie. Parce que créativement, n'est-ce pas l'important, c'est s'il y a sur une histoire la nécessité, l'angoisse et aussi le travail actif de s'adapter. Que, si vous voulez, l'histoire c'est toujours finalement une adaptation incessante. Et donc, on a devant soi une tâche d'adaptation à n'importe quel âge que ce soit. Enfin, c'est pas seulement le jeune ou le tout jeune qui doit s'adapter, mais c'est aussi le vieux, hein, ou celui qui avance en âge. À tout instant, il faut s'adapter existentiellement. Et si vous joignez à cette tâche d'adaptation la tâche d'écrire, vous trouvez, je crois, une certaine formule chimique de l'œuvre comme chose à faire. C'est une formule difficile, vertigineuse, car c'est un sujet lui-même changeant, qui doit s'adapter au changement, et c'est un problème un petit peu einsteinien. Le monde et moi nous changeons en même temps, mais sans qu'il y ait un repère qui, de droit ou de nature, étalonne la justesse du changement. Quand je dis, par exemple, à un certain âge, ceci ne me plaît pas, je ne sais pas si c'est le monde ou moi qui a changé. Je ne sais pas de qui me plaindre. Est-ce que je dois me plaindre du monde ou est-ce que je dois me plaindre de moi? Voilà pour l'histoire. Deuxième question, dans quelle société est-ce que mon œuvre va, l'œuvre que j'écris, doit prendre place? Alors, répondre à cette question impliquerait bien entendu un travail de sociologie profonde que je ne veux pas faire, parce que je ne saurais pas le faire, et puis parce que, en un sens, ça a déjà été fait.
En effet, on a une théorie, la théorie la plus sociale de la littérature pour la modernité, qui est à l'intérieur du discours marxiste, la théorie de Lukács, reprise par Goldman. Et c'est une théorie qui s'est exercée, vous le savez, à propos du roman. La thèse lukácsienne et goldmanienne, c'est que pour le grand romancier occidental, il y a conflit et incompatibilité entre deux notions, l'être et le devenir. Le personnage romanesque, par exemple Julien Sorel, chez Stendhal, se souvient, sans le savoir, d'un état mythique de l'humanité où les individus vivent en harmonie avec le monde. Et le héros romanesque, donc selon cette théorie, s'efforce de retrouver cette harmonie perdue dans un monde moderne qui est travaillé et altéré, déchiré par les lois du capitalisme moderne, du capitalisme, disons, naissant dans le Don Quichotte de Cervantes, ou du capitalisme régnant dans la Karénine, par exemple, de Tolstoï. Capitalisme qui désunit les hommes. Donc, pour cette thèse, le roman se définit comme un mode d'écriture qui a pour mission de mettre en opposition, de mettre en scène, si vous voulez, de mettre en opposition un univers de valeurs, amour, justice, liberté, avec un système social déterminé par des lois économiques. Et logiquement, dans ce conflit, le héros doit succomber. Et c'est effectivement ce qui se passe le plus souvent, c'est en tout cas ce qui arrive à Julien Sorel. Mais souvent aussi, disent Lukács et Goldman, le roman, c'est le déroulement d'un compromis entre des valeurs irréalisables et une histoire sociale acceptable. Le héros romanesque est victime de l'antagonisme entre une histoire réelle et une éthique vraie. Tout ceci, pour ne rien vous cacher, est tiré de l'Encyclopédia universelle. Mais ça paraît très bien dit, très clair. Alors, ce schéma, effectivement, est assez convaincant par sa fermeté, aussi par sa force dialectique. Vous le savez, il est absent des premières systématisations marxistes de la littérature de type écadonien. Mais malgré tout, ce schéma pose évidemment encore beaucoup de questions, et notamment celle-ci est notre question. Les romans actuels. Il me semble que ce soir, on ait affaire à une poussière de romans, mais qu'on ne rencontre pas, même si c'est une idée, une illusion, qu'on ne rencontre pas de grands romans. Enfin, l'idée même de grands romans semble être absente de la production actuelle. C'est-à-dire que les romans ne semblent plus être le dépôt, je dirais, d'aucune intention de valeur, d'aucun projet, ou d'aucune passion éthique. Et pour autant que je puisse en juger, ils sont plutôt autant d'expressions parcellaires, de situations, de contestations particulières. Enfin, il y a dépérissement ou suspension de l'éthique vraie. Et en ce sens, la situation des romans, je ne dis pas du roman, mais des romans, sauf exception, serait une situation régressive, dans la mesure où il n'y a pas, semble-t-il, de transcendance romanesque. Or, ces romans, tout de même, existent, adviennent dans une société où le capitalisme continue, je parle pour l'Occident, et où le monde réel dénie, c'est évident, les rêves d'harmonie. Donc, on devrait retrouver dans le monde actuel, si le schéma de Lukács et de Goldman est vrai, on devrait retrouver la formule romanesque que j'ai décrite grâce à l'encyclopédia. Et donc, si moi j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas cette formule, il faut une autre analyse. Alors là, il y a un problème. Et je crois que, encore une fois, il s'agit de ce que j'appellerais d'un propos de conversation. Il ne faut pas trop vous contester là-dessus, parce que je reculerai immédiatement. Je crois que le nœud de complexisation est le suivant. Deux remarques, trois remarques. Politiquement, à l'intérieur même d'une réflexion marxiste, il y a, semble-t-il, je le pense en tout cas, un grand refoulé, et pas seulement dans les considérations sur la littérature, partout, car la vulgate marxiste continue à mettre toujours en conflit la bourgeoisie et le prolétariat, mais elle refoule systématiquement la petite bourgeoisie. Où est-elle? Ah, il n'y a pas dans le vocabulaire politique, la bourgeoisie se désigne, le prolétariat se désigne encore, sous le nom collectif de travailleurs, mais la petite bourgeoisie ne se désigne pas, elle est refoulée. La nomination, en tout cas, est refoulée. Alors, où est-elle, cette petite bourgeoisie? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment et sur quoi agit-elle? Moi, je crois qu'elle est très présente. En tout cas, Marx, semble-t-il, avait été très clair là-dessus, et il avait désigné, à un certain moment, le rôle pivotal de la petite bourgeoisie dans l'histoire des sociétés modernes, à propos de la révolution de 1848. Vous savez, il avait expliqué très bien que cette révolution a connu deux phases, une phase ascendante et une phase descendante. Et la révolution a été triomphante dans la première phase, quand qui a été une phase d'alliance entre le prolétariat et la petite bourgeoisie, précisément. Et puis, c'est-à-dire la révolution 48 jusqu'en mars. Et puis, cette révolution a échoué, elle est entrée dans une phase répressive avec, tout à fait au bout, la dictature de Napoléon III, n'est-ce pas pour finir. La révolution a capoté, a échoué, quand cette petite bourgeoisie a fait volte-face, s'est retournée et a fait alliance avec la bourgeoisie au moment des journées de juin 48, donc consommer l'écrasement du prolétariat isolé. Alors, moi, c'est un schéma peut-être très simple, mais j'ai toujours, chaque fois que j'y repense ou que je relis, je suis toujours emporté, peut-être d'une façon un peu imaginaire, par sa clarté, n'est-ce pas? Car j'ai toujours l'impression qu'effectivement, c'est la désunion du prolétariat, même si on met des guillemets, et de la petite bourgeoisie, même si on met des guillemets, c'est toujours cette désunion. Je pense que vous suivez mon regard. Hein. C'est toujours cette désunion qui coûte sa victoire à la gauche. Et que tant qu'il n'y a pas alliance entre le prolétariat, même le guillemets, et la petite bourgeoisie, la gauche n'a pas de chance. Donc la petite bourgeoisie me paraît être un refoulé de la vie du discours politique. Or, ceci est très important pour la littérature. Pourquoi? Parce que l'écrivain a un statut social ambigu, qui est précisément, ou qui était en tout cas au XIXe siècle, et qui est le cas encore maintenant, intermédiaire entre le bourgeois et le petit bourgeois. René Flaubert, vous savez qu'il fulmine sans cesse contre le bourgeois, mais ce qu'il vise en fait, c'est l'esthétique, n'est-ce pas, ou le discours petit bourgeois. En fait, le bourgeois, c'est Flaubert, c'est le petit bourgeois, au sens éthique et esthétique. Et en fait, c'est la montée historique de la petite bourgeoisie qui angoisse et qui asphyxie le bourgeois Flaubert. Et notre histoire française, et sans doute européenne, actuelle, est marquée par cette montée, me semble-t-il, par cet épanouissement de la petite bourgeoisie dans la culture, par une voie d'irrigation foudroyante qui sont les médias. Je pense que les médias, les masses médias, sont en fait au pouvoir de la petite bourgeoisie, enfin au pouvoir discursif, c'est-à-dire au pouvoir de discourir. Le pouvoir de discourir, le discours est entre les mains de la petite bourgeoisie et il suffit vraiment d'ouvrir 3 secondes un poste de radio pour en être convaincu. Enfin, ça serait le sujet d'un autre cours, peut-être moins idyllique que celui-ci. Petite bourgeoisie, donc bien entendu, le capitalisme, au sens le plus strictement économique du mot,
prend les intérêts en charge, les intérêts culturels en charge. Et ça explique que ce cri de Flaubert que je vais apporter, et cri qu'il pourrait pousser aujourd'hui aussi vigoureusement face à la politique culturelle et enseignante d'aujourd'hui, quand à 51 ans, c'est-à-dire en 1872, il écrit à Tourvenieff, « J'ai toujours tâché de vivre dans une tour d'ivoire, c'est-à-dire en tant que pur bourgeois isolé de la montée petite bourgeoise. » C'est ça que dire, la tour d'ivoire. « J'ai toujours tâché de vivre dans une tour d'ivoire, mais une marée de merde en bas les murs à la faire couler. Il ne s'agit pas de politique, mais de l'état mental de la France. » Ça veut dire du moins l'idéologie. « Avez-vous vu la circulaire de Simon, ministre de l'Instruction publique, contenant une réforme de l'instruction publique? Le paragraphe destiné aux exercices corporels est plus long que celui qui concerne la littérature française. » Voilà un petit symptôme significatif. Alors, de Flaubert à maintenant, il a pu continuer d'agir, n'est-ce pas? La littérature a pu continuer d'agir, de Flaubert à maintenant, mais à titre d'histoire de la littérature. Et je pense ici à ce que disait Kafka à propos de la littérature des petites nations. Il pensait à la bohème de son temps. Moi, je pense qu'on peut dire que maintenant, la France est une petite nation. Et donc, on peut appliquer à la France des réflexions que Kafka faisait à peu de choses près sur la bohème. Et il disait que la littérature continuait parce que elle continuait à créer en enregistrant les écrivains morts. Et il disait, leur action incontestable sur le passé et le présent devient quelque chose de si réel qu'elle peut être substituée à leurs œuvres. On parle de leurs œuvres et l'on pense à leur action. Même en lisant celle-ci, c'est encore celle-là qu'on voit. L'histoire littéraire se présente comme un bloc immuable, digne de confiance que le goût du jour ne peut endommager beaucoup. Alors, ce que je pense, c'est que ce bloc, précisément, en France, n'est plus immuable. Et que la crise de la littérature a commencé, comme je l'ai dit d'ailleurs à la première heure de cette séance, elle a commencé par une crise de l'histoire de la littérature. Et que le goût du jour n'est même plus à l'histoire de la littérature. Et donc, il y a une angoisse d'abandon. Alors, ce qu'on pourrait retenir pour conclure cette vue sur le rapport actuel de la littérature et de la société, c'est ceci, il faut dire, je crois, très franchement, avec des mots très simples et très anciens, c'est que la littérature n'est plus soutenue par les classes riches. Elle n'est plus soutenue par les classes riches. Qui soutient la littérature? Vous, moi, c'est-à-dire des gens sans revenus. Nous sommes retirés de la bourgeoisie, et elle existe encore, retirés par absence de tout pouvoir économique. Ni vous ni moi n'avons qu'un pouvoir économique. Mais en même temps, nous ne sommes pas tout à fait, franchement, intégrés à la petite bourgeoisie, à la nouvelle classe qui cherche le pouvoir. Nous ne sommes pas intégrés parce que son éthique et son esthétique ne nous suffit pas et suscite en nous un regard critique. Et au fond, la littérature aujourd'hui est soutenu par une clientèle de déclassés. Et nous sommes donc tous, qui aimons la littérature, des exilés sociaux, et nous emportons la littérature dans le maigre bagage de cet exil. Alors, c'est évidemment parce que, c'est parce que l'écrivain est un déclassé, que précisément, par compensation, il se pose avec énergie, et parfois même avec hystérie, le problème de l'engagement. Puisque le monde m'a sorti, comme on dit dans le jargon de classe, sortez-le, puisque le monde m'a sorti, eh bien je veux à tout prix y rentrer. Et je veux y rentrer, et c'est l'engagement. et parce que je suis une sorte de laissé pour compte du réel, je ne puis m'en faire reconnaître qu'au prix, évidemment, d'une certaine oblation. Alors, je laisse à deviner, bien sûr, combien est morale l'activité d'engagement des écrivains et des intellectuels aujourd'hui, que les signes de cette moralité sont innombrables, signatures, déclarations, interdits, etc. Vous le savez, il y a d'ailleurs un essoufflement, il y a une crise de l'intellectualité, parce que précisément ces signes deviennent un petit peu exsangues et non vitalisés. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien de constitution entre la séparation réelle de l'écrivain et son engagement. C'est-à-dire que c'est dans la mesure, je dirais, où l'écrivain n'est plus adéquat qu'il adhère. Il n'est plus adéquat, donc, par compensation, il adhère. Et Chateaubriand, parce que c'est tout de même l'homme qui a pensé en grand tous ces problèmes, n'est-ce pas, avec des formules très belles. Chateaubriand, dans la préface testamentaire des Mémoires d'outre-tombe, fait remarquer qu'au Moyen-Âge, il y avait adéquation entre la vie et l'œuvre. Et en effet, la vie et l'œuvre de l'écrivain. La vie de l'écrivain et son œuvre. En effet, il suffit de penser à l'implication stupéfiante de la vie et de l'œuvre chez Dante. Mais, continue Chateaubriand, mais à compter de François Ier, nos écrivains ont été des hommes isolés dont les talents pouvaient être l'expression de l'esprit, non des faits de leur époque. Et alors, d'où, à mon sens, l'espèce d'hérétisme, et je dis, j'explique pour ceux qui ont la paresse des dictionnaires que hérétisme veut dire excitation violente d'une passion, donc l'espèce d'hérétisme d'engagement de l'écrivain actuel. Chaque fois qu'il ne répond pas à une sollicitation d'engagement, et il y en a à peu près une à chaque courrier, il risque l'angoisse, il croit courir le risque de manquer le coche du réel et de rester seul sur la plage où tout le monde s'en va, ou de rester seul sur une autre planète solitaire, ou plus autre que Sirius. Voilà pour donc où peut prendre, dans quelle société peut prendre place mon œuvre. Troisième interrogation, dans quelle langue est-ce que cette œuvre va prendre place? Alors, je dirais que tout repose de ce point de vue sur un paradoxe, ou du moins une contradiction entre deux natures ou deux postulations de ce qu'on pourrait appeler la langue d'écriture. C'est-à-dire la langue littéraire étant jusqu'à aujourd'hui nécessairement écrite. C'est la définition jusqu'à aujourd'hui de la littérature de ne pas être orale. Enfin, ce qu'on appelle les littératures orales, ça ne fait pas partie des classes de lettres, c'est renvoyé au folklore, à l'ethnologie, etc. Dans les marges lointaines. Remarquez, ça peut changer. Il peut très bien y avoir un écrivain qui décide, et je crois que c'est justement l'un des aspects du projet de Solers, c'est de faire passer Paradis du statut de langue écrite au statut de langue orale, puisqu'il en a déjà enregistré sur cassette des morceaux, quoi qu'il a lu lui-même. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui pense certainement au problème de l'oralité, et de la mutation vers l'oralité. Mais jusqu'à présent, la langue littéraire est une langue écrite. Alors, je crois que le premier statut obligatoire de la langue d'écriture, c'est qu'elle soit native. C'est-à-dire qu'elle appartient comme une sous-catégorie à la langue maternelle du sujet. Enfin, on réserve comme tout à fait exceptionnel le cas des écrivains qui font une œuvre dans une langue autre que leur langue maternelle, ça existe, n'est-ce pas? Il y a des gens comme Joseph Conrad, ou Beckett, ou Cioran, mais enfin, disons que ce sont des cas tout de même qui restent très exceptionnels. Alors, ce caractère natif et maternel de la langue d'écriture fait, je crois, ce que j'appellerais l'essence pathétique de la langue. La langue maternelle, enfin, remarquez qu'on ne dit pas la langue paternelle, enfin, la langue maternelle, c'est celle qui a été apprise dans le cercle de la mère, et en un sens, c'est donc la langue des femmes.
c'est la langue transmise, la langue héréditaire qui se réfère, je crois inconsciemment, à un matriarcat. Et j'ai déjà expliqué que dans mon cas, ce qui est un peu particulier, puisque comme j'ai perdu mon père à l'autre guerre très tôt, j'avais à peine quelques mois, même pas un an, j'ai été évidemment élevé, enfin en tout cas linguistiquement, dans un cercle de femmes. Et donc j'ai appris la langue par des femmes qui étaient ma mère, ma grand-mère paternelle et ma tante, surtout mes deux grand-mères. Comme je l'ai dit dans un livre, les hommes de la famille parlant peu, c'est-à-dire les grands-pères se taisant. C'est là qu'il y a, disons, l'indice d'un certain pathétique, dans le bon sens du mot. Et je dirais que ce pathos de la langue native est pour moi si important que je supporte mal personnellement les œuvres traduites, si grandes soient-elles et si bien traduites soient-elles. Par exemple, Kafka, qui a été admirablement traduit par une amie, Marthe Robert, eh bien, c'est tout de même, et ça ne dépend pas d'elle, mais c'est tout de même parfois, je dirais, scripturalement, un petit peu ingrat, si vous voulez. Et le critère, c'est que ça ne fait pas plaisir à recopier. Tandis que recopier du Chateaubriand, ça fait très plaisir. Mais recopier du Kafka, ça ne fait pas très plaisir. Deuxième statut de la langue d'écriture, donc d'abord c'est la langue native, la langue maternelle. Deuxièmement, c'est une langue apprise, non plus par automatisme enfantin, mais par pédagogie et éducation à l'école. Vous savez que le système éducatif de l'Antiquité proposait très bien la langue des nourrices et la langue des pédagogues, grammaticus. On voit très bien cela dans cet auteur admirable, Quintilien. Et en fait, n'est-ce pas, on apprend le classique. Alors, j'en passe mot dans un sens très essentiel, toute langue littéraire. On apprend le classique exactement comme on apprend l'anglais. Moi, j'ai mieux appris le classique que l'anglais, d'ailleurs. Enfin, même si je ne suis pas bien classique, malgré tout, je peux communiquer plus de choses en classique qu'en anglais. Alors, le caractère ambivalent de la langue d'écriture, donc, c'est qu'elle est à la fois une langue du dehors et une langue du dedans. C'est-à-dire une langue à la fois une langue héréditaire et cependant à chaque fois self-made, spontanée, construite, particulière et universelle, dans la mesure où l'on est persuadé que cette langue de groupe, on sait bien que la langue littéraire est une langue de groupe, mais en même temps, on est persuadé que c'est une langue qui détient une essentialité. Et Mallarmé, vous le savez, avait la vague idée pour lui-même, une idée naturellement qu'il a énoncée avec beaucoup d'ironie, en souriant, mais avec un grain de vérité probablement dans cette ironie, il avait la vague idée pour lui-même d'une noblesse héréditaire. Enfin, il avait eu des ancêtres qui avaient écrit, et ça le confortait beaucoup. Il sentait au fond la langue écrite comme héréditaire. Il y avait une filiation des lettres. Dans la langue d'écriture, donc, il y a plusieurs temps qui s'inscrivent, et donc aussi, il faut le dire, plusieurs morts possibles. Par exemple, premièrement, la langue native du sujet vieillit, d'autant plus que c'est toujours la langue de classe, d'origine, des parents, et cette langue vieillit dans la vie du sujet à un rythme qui est difficilement repérable parce que l'usure est quotidienne. Je sens très bien en ce qui me concerne qu'il y a des mots de mon langage parlé, je ne parle pas de mon langage écrit, mais de mon langage parlé, des mots familiers qui me viennent de mon enfance et dont tout d'un coup je découvre ils étonnent un peu mes interlocuteurs plus jeunes. Alors, certaines œuvres littéraires, dans la restitution des dialogues de personnages, font état de ces légers décalages. Par exemple, Balzac m'a dit cela très bien, et Proust aussi, bien sûr. Il y a des légers vertiges qui viennent par la langue
il faudrait étudier subtilement des vertiges de langue dans la communication. Deuxièmement, la langue apprise, à savoir le classique, vieillit plus violemment, c'est-à-dire, ou en tout cas, elle est rejetée plus violemment qu'une autre langue, parce qu'elle se démode. Et elle entraîne celui qui lui reste fidèle dans la solitude du démodé. Le démodé est spontanément douloureux, à moins d'être récupéré artificiellement par le rétro. Mais le rétro... L'écrivain, donc, qui a une propension à lire intensément et à penser le temps, la déchirure de la langue comme déchirure du temps peut prendre l'allure grandiose et déchirante d'une apocalypse. D'une apocalypse de la langue. Imaginez une apocalypse de la langue française. De la langue littéraire, de la langue écrite. Et là, je vais encore citer Chateaubriand, car il l'a dit magnifiquement, c'est-à-dire exagérément. Il l'a d'abord dit, il l'a dit à propos d'abord de la disparition des langues amérindiennes, l'iroquois par exemple, n'est-ce pas? Et je cite d'abord cet introïte funèbre qui est magnifique. Un poète prussien, alors on ne sait jamais où Chateaubriand va chercher ses exemples. C'est absolument incroyable, il a toujours un exemple absolument inconnu et merveilleux sous la main. Donc, un poète prussien, au banquet de l'ordre teutonique, chanta en vieux prussien, vers l'an 1400, les faits héroïques des anciens guerriers de son pays. En vieux prussien, 1400. Et personne ne le comprit. Et on lui donna pour récompense 100 noix vides, un sac de 100 noix vides. Et ensuite, ceci qui est grandiose et dérisoire, toujours de Chateaubriand, des peuplades de l'Orénoque n'existent plus. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres, comme la grive d'Agrippine, encore un exemple incroyable, comme la grille d'Agrippine grouillait des mots grecs sur les balustrades des palais de Rome. Tel sera tôt tard le sort de nos jargons modernes. Entendez le français classique, n'est-ce pas? Un jargon, effectivement. Débris du grec et du latin. Quelques corbeaux envolés de la cage du dernier curé franco-gaulois dira du haut d'un clocher en ruine à des peuples étrangers, nos successeurs, agréez les accents d'une voix qui vous fut connue. Vous mettrez fin à tous ces discours. Soyez donc Bossuet, continue Chateaubriand, Bossuet qui est le prototype de l'écriture classique, soyez donc Bossuet pour qu'en dernier résultat, votre chef-d'œuvre survive dans la mémoire d'un oiseau, à votre langage et à votre souvenir chez les hommes. L'oiseau, n'est-ce pas, corbeau ou perroquet, ce n'est pas si métaphorique que ça, ou à peine. Parce que on m'a raconté cette histoire, mais je ne sais pas si c'est une histoire vraie, je ne crois pas, mais enfin, peu importe. C'est une anecdote de la vieille dame, il n'y a pas tellement longtemps, qui avait hérité d'un perroquet, justement, et vous savez, paraît-il, les perroquets vivent extrêmement longtemps, certains peuvent vivre, dit-on, ça fait partie de la légende, je ne sais pas ce qui se passe scientifiquement, jusqu'à 2 ou 3 siècles. Et cette vieille dame avait donc hérité d'un perroquet qui disait toute la journée, le roué, c'est moué. Il avait appris à parler sous Louis XIV. Et donc, le perroquet, c'est effectivement le précurseur du magnétophone, du magnétoscope. Et c'est par le perroquet que peut-être on pourrait avoir, on aurait pu, disons, avoir des traces scientifiques de prononciation ancienne. Alors, la littérature, c'est la langue, c'est une certaine langue
Et un écrivain, raisonnablement, s'il réfléchit un peu, doit penser son éternité, ou du moins sa vie posthume, sa survie posthume, sa postérité, non pas en termes de contenu ou d'esthétique, car ceux-ci peuvent être repris en spirale par des modes ultérieurs, mais en termes de langue. Un écrivain lucide, s'il arrive de penser, de se dire « est-ce que je serai lu plus tard, par exemple, n'est-ce pas quand je serai mort ?» Eh bien, il ne doit pas penser ça en termes de contenu, d'idées, parce que ça, c'est des modes, ça passe, ça revient, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit se le penser, ce problème-là, en termes de langue. Il doit se demander, est-ce que la langue que je parle subsistera plus tard? Et en général, je dirais que le diagnostic est effectivement sévère, parce que non seulement la langue n'est pas éternelle, mais encore son dépérissement est irréversible, précisément. Nous pouvons revenir, par exemple, nous pouvons très bien actuellement revitaliser d'une façon authentique des thèmes, des idées forces, disons en gros du Moyen-Âge, je sais pas, du Moyen-Âge français. Nous pouvons très bien faire ça. Il peut y avoir une relance du Moyen-Âge, il paraît qu'il y a actuellement une relance du mysticisme, enfin qu'il y a toujours des relances, donc ça c'est très possible. Mais malgré tout, jamais plus, nous ne parlerons, vous et moi, la langue française du Moyen-Âge. Ça c'est fini. Oui, ça c'est fini. C'est fini, je me rappelle que, un peu après la guerre, il y a eu des émissions très intéressantes à la radio, je me souviens très vague, où Queneau, qui s'intéressait beaucoup à ces problèmes-là, c'était extrêmement intelligent, et Queneau avait fait des émissions, une émission où un acteur lisait du français avec la prononciation du Moyen-Âge. Et c'était très saisissant, très beau, et en plus très saisissant, parce qu'on était là devant un état complètement inconnu d'une langue qui est tout de même la nôtre. Donc, il faut interroger ça, c'est la langue qu'il faut interroger, et non pas les contenus, parce que si Racine passe un jour, et je pense que c'est déjà peut-être un peu fait, ce n'est pas parce que sa description de la passion est ou sera périmée, je crois qu'elle ne l'est pas du tout, mais parce que sa langue sera aussi morte que le latin pour l'Église conciliaire. Donc, j'admire beaucoup la prudence et l'intelligence de Flaubert quand il a écrit à 51 ans, car j'écris non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. Ça, c'est très beau. C'est pas seulement beau, mais c'est très intelligent. C'est très prudent. Tant que la langue vivra. Et je voudrais noter avec amusement que cette pensée elle-même, tant que la langue vivra, est déjà sans écho. Elle est déjà archaïque. Moi qui la trouve si belle et si vivante, qui m'en enchante, eh bien, je crois qu'elle est archaïque, qu'elle est déjà sans écho, et que sa forme, tant que la langue vivra, ça serait un titre admirable de livre, tant que la langue vivra, sa forme même n'est plus perçue comme admirablement simple et impressive. Et j'avais fait de cette phrase le titre et le sujet d'une petite chronique du Nouvel Observateur, mais cela n'a rencontré absolument aucune espèce d'écho. Je le dis parce que dans ces chroniques, les anciennes, il y a un an, comment dire des choses, je n'attendais pas du tout qu'il y ait des échos à chaque fois, mais sur certains points, j'ai toujours ressenti comme significatif qu'il n'y en ait pas. Et je crois que j'ai raison. Je crois que j'ai raison de vouloir que quand on écrit dans un journal, il y ait, non pas systématiquement, mais sur certains points, des échos. Sinon, ça n'est pas la peine d'écrire dans un journal, bien entendu. Si on veut écrire sans échos, il faut écrire des livres. Alors, la langue, donc j'emploie ce mot au sens complexe, mais je crois précis, de discours originé dans une langue qui est elle-même originée dans le langage, c'est-à-dire, en fait, au sens saussurien, c'est-à-dire la langue moins la parole, Donc la langue, c'est un espace-temps. Et par conséquent, les divisions synchroniques, selon le clivage de l'espace social, n'est-ce pas, la synchronie renvoie à l'espace social, la langue qui est parlée par tous les membres d'une nation à un certain moment, les divisions synchroniques sont intriquées dans les divisions du temps historique. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'étudier une langue, ou l'état d'un langage. Et il est donc acceptable de placer dans la douleur du temps la division de la langue française. Et je dirais que pour simplifier, nous aurions trois langues françaises. Ce sont des propositions qui sont là, du niveau de la conversation, je répète. Nous aurions, premièrement, une langue française ou la langue française parlée, ou plutôt conversationnelle, car il existe une langue parlée qui n'est pas conversationnelle, qui est codée rhétoriquement, sans être pour autant écrite, qui est la langue des politiciens, la langue des professeurs, la langue de la radio, de la télévision, etc. C'est une langue parlée, qui n'est pas écrite, mais qui n'est pas une langue conversationnelle. Alors, cette langue conversationnelle, donc, elle est interlocutoire, c'en est la marque définitionnelle. Alors, sans doute, il y a de nombreuses sous-variétés, mais qui d'ailleurs ne sont pas répertoriées, puisque, comme vous le savez, à ma connaissance, il n'existe pas une description linguistique du français parlé, et c'est très regrettable. Et je ne parlerai pas de cette langue conversationnelle, parce que ça ne fait pas partie du cours. Je dirais simplement, ceci toujours, qui me frappe toujours dans la vie courante, c'est la possibilité théorique et méthodique de considérer la langue conversationnelle du point de vue que je vais dire, enfin, du point de vue de la vie courante que je vais dire. C'est-à-dire le fait que, bien souvent, le sujet français semble lutter terriblement avec sa langue, avec sa nullité, avec l'aphasie. Et chez bien des Français, ça dépend évidemment des milieux sociaux et des milieux régionaux et ruraux, mais bien souvent, l'usage de la langue française semble difficile, semble douloureux, semble rugueux. Et par exemple, dans mon village, si je puis dire, j'entends souvent, un village, comme vous savez, de l'extrême sud-ouest, à la limite du Pays Basque et du Béarn. Eh bien, dans mon village, j'entends souvent des sujets de ce village, par exemple, un jardinier, le cantonnier, je dirais même à Paris, chez le concierge, j'entends donc des sujets qui s'expriment d'une façon terriblement embarrassée, rauque, non fluente, lente, sporadique, cherchant sans résultat la forme de la langue, et on dirait dans ces cas-là que le français est pour eux une sorte de seconde langue mal apprise, comme pour moi précisément quand je parle anglais. Mais là, le drame, c'est qu'on ne sait pas quelle est la première langue. On ne sait pas quelle est la première langue. Quel est le patois virtuel qui est derrière cette difficulté à parler le français. Et j'ai constaté, par exemple, que, toujours alors dans ce village, le jeune coiffeur, chez qui j'aime beaucoup aller pour ces raisons-là en particulier, qui est le jeune coiffeur qui doit avoir les 25 ans, qui succède à son père, et qui pourtant, lui, a fait ses études de coiffure à Tarbes, hein, et qui est donc sorti du village. Bien, il avait en fait toujours deux langues selon la façon d'aborder le sujet, le traité. Par exemple, je l'ai interrogé, je crois que c'était l'été dernier, oui, forcément, je l'ai interrogé sur les risques qu'il y avait, en cette conversation privée, sur les risques qu'il y avait d'aller à Saint-Sébastien, puisqu'il y avait des actes semi-terroristes, disons, d'agression contre les touristes français. Alors, je l'ai interrogé, et alors, j'ai constaté que sur les risques eux-mêmes, c'est-à-dire si on pouvait aller à Saint-Sébastien ou non, c'est ce qui me concernait moi, en fait. Incertitude, langue embarrassée, rocailleuse, laconique.
difficulté à parler le français. Mais sur le terrorisme basque ou anti-basque en Euskadi Nord, parce que maintenant on dit plus le pays basque que le français, on dit Euskadi Nord, vous savez, la langue se dénouait. Quand je l'interrogeais sur le terrorisme, c'était une autre langue qui apparaissait, une langue assez fluente. Et pourquoi? Mon interprétation est la suivante. C'est parce que sur les risques que je pouvais avoir, moi, d'aller à Saint-Sébastien, il était obligé d'inventer. Il n'avait pas de réponse toute faite, n'est-ce pas? Il ne savait pas s'il voulait s'il fallait répondre. Et donc, il n'avait pas de langue à sa disposition. Mais sur le terrorisme, il avait à sa disposition des stéréotypes. Et à ce moment-là, il pouvait parler. Ces stéréotypes, d'ailleurs, n'étaient pas du tout ceux de la presse, parce que, étant du pays, il avait des stéréotypes en quelque sorte plus vivants, plus parlés, et c'était des informations, des ragots de gendarmes à qui il avait coupé les cheveux, et il parlait de donner toujours expliquer toujours l'histoire par les très petits côtés. Il y avait eu un basque assassiné, un réfugié basque assassiné à Saint-Jean-de-Luz, alors c'est pas du tout par terrorisme politique ou lutte politique, c'était une affaire de proxénétisme, etc. Enfin, peu importe, il y avait toute une conversation très facile parce que là, il avait des stéréotypes ou des rumeurs à langagifier, si je puis dire. Autrement dit, pour donner une issue méthodologique à cette anecdote, je dirais qu'une bonne linguistique, c'est-à-dire une linguistique fine, ne dissocierait pas la langue du discours. Voilà le grand problème méthodologique, c'est de ne pas dissocier la langue du discours. Et maintenant, tout est conduit, puisque aussi bien, on ne veut plus, c'est un progrès énorme, dissocier l'énoncé de l'énonciation, par exemple, n'est-ce pas ? Eh bien, en d'autres termes, une vraie linguistique ne pourrait plus dissocier la langue du discours. Et parler avec une langue fluide, souveraine, c'est avoir accès non pas au trésor de la langue des linguistes, mais au trésor des stéréotypes. Parler couramment, c'est avoir accès au trésor des stéréotypes. Car le stéréotype n'est pas seulement un fait idéologique, c'est un fait absolument linguistique. Eh bien, à samedi prochain, la fin de ce cours. Merci beaucoup.